Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Excessif.
Le prof Patrick.
On est avec le prof Patrick, effectivement, en studio. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, prof Patrick ?
Un sujet qui m'a été demandé, il faut que je parle de ça. Ok, parlons des banques. Le retour du grand frisson, c'est comme ça que j'ai appelé cette chronique.
Ah oui, c'est vrai qu'elles nous ont fait peur, les banques.
Voilà, elles nous ont fait un peu peur. Ça a commencé avec une obscure banque californienne, dont personne n'avait entendu parler en France jusqu'à là, la Silicon Valley Bank. Bon, dedans, il y a Silicon Valley, le fameux paradis de la tech dont on a parlé dans nos deux précédentes chroniques, en Californie. Donc, c'est une banque située dans la Silicon Valley. Pour être précis, c'est la banque des startups. Ouais. Toutes ces startups qu'on appelle la tech, ces startups spécialisées dans les hautes technologies, etc. Elle est tellement réputée parmi les startups qu'elle compte même dans ses clients des startups anglaises, des startups indiennes et des startups chinoises.
D'accord.
Ouais. Grosse activité, cette banque. Les montants déposés par ses clients ont été multipliés par 3 en 2 ans pour atteindre 189 milliards de dollars cette année. Cet argent, c'est l'argent en fait des startups quand elles font des augmentations de capital, on appelle ça des levées de fonds. Eh bien, l'argent récolté va dans la Silicon Valley Bank. Et puis, les startups, elles tapent dedans pour financer leurs dépenses. Parce que les startups, en fait, c'est des machines à brûler de la trésorerie. Donc, elles ont besoin de cet argent et elles tapent dedans en permanence pour financer leurs dépenses courantes. Bon, qu'est-ce qui a déconné ? Qu'est-ce qui a provoqué la faillite de la Silicon Valley Bank et le début de panique des marchés financiers ? Je vais vous expliquer ça. C'est parti. Alors, déjà, cet argent qu'elle récupérait grâce aux levées de fonds de ses clients, les startups, qu'est-ce qu'elle en faisait ? Eh bien, en fait, elle utilisait cet argent pour faire des placements financiers. Divers placements financiers, dont des placements sans risque, parce que quand on fait des placements diversifiés, il y a une partie des placements qui sont sans risque. Et les placements sans risque, c'est des bons du Trésor américain. Bons du Trésor, c'est des dettes américaines pour financer leur déficit. Eh bien, ils émettent des bons du Trésor pour payer ce déficit. C'est de l'emprunt, après c'est de l'argent que le gouvernement américain rembourse. Il faut savoir que ces bons du Trésor, ça rapporte que dalle.
Ah oui.
Bah oui, parce qu'en fait les taux d'intérêt depuis 10 ans sont très bas, à cause des politiques monétaires de la Banque Centrale Américaine de relance qui faisait que leur taux directeur était à zéro, donc les taux d'intérêt étaient très bas. Mais bon, ça rapporte que dalle, mais c'est quand même des obligations sans risque, donc la Silicon Valley a ses obligations en grande quantité dans ses comptes. Ces obligations, ces bons du Trésor, elles ont un cours boursier, d'accord ? Elles valent une certaine somme et c'est cette somme qui est inscrite dans le bilan de la banque. Sauf que depuis un an et demi, c'est passé quelque chose, un petit quelque chose qui a beaucoup touché le porte-monnaie des ménages dans le monde entier. C'est quoi le quelque chose qui est survenu dans le monde entier ?
Crise énergétique,
non ? Qui a provoqué...
Ah, bah le Covid, ouais.
Non, même pas. Non, la crise énergétique qui a provoqué l'augmentation des prix et donc de l'inflation.
Oui.
Et donc, problème pour les pouvoirs d'achat de tout le monde, nous y compris.
Ouais.
Pour lutter contre l'inflation, la Banque Centrale Américaine a augmenté brutalement ses taux d'intérêt, qui sont passés de 0 à 4,3%.
Ouais.
Ça fait un choc, en peu de temps. Résultat, les nouveaux bons du Trésor américain qui sont émis depuis, eh bien, ils rapportent beaucoup plus. Au lieu de rapporter 0,5% ou 1%, ils doivent rapporter du 3, 4%, etc. etc. Exactement.
Ouais.
Le problème, c'est que ça fait automatiquement baisser le cours des anciens bons du Trésor qui rapportent que dalle.
D'accord.
Donc, ces anciens bons du Trésor détenus dans les comptes de la Silicon Valley Bank, eh bien, leur valeur baisse. Alors, attention, tout ce que je vais expliquer, c'est virtuel. C'est-à-dire que tant que la banque n'a pas vendu ses obligations, ça n'arrive pas. Mais virtuellement, on sait que ça correspond à ça. C'est-à-dire qu'en fait, imagine un bilan d'une banque, c'est un tableau en deux colonnes, avec la colonne de gauche, sur lequel, la colonne de l'actif, dans lequel il y a toutes ces obligations détenues par la Silicon Valley Bank. Si la valeur virtuelle de ces obligations baisse, eh bien, le total de la colonne de gauche va baisser.
Ouais.
Seul problème, c'est qu'il faut que les deux colonnes restent équilibrées. Donc ça veut dire que la colonne de droite, elle doit baisser aussi.
Et il y a quoi dans la colonne de droite ?
Ah, voilà une bonne question. Il y a les dettes.
D'accord.
Les dettes, c'est l'argent que les clients ont déposé à la banque et qu'elle doit. Alors ça ne peut pas bouger.
Ouais.
Donc il y a autre chose qui va bouger, qui va baisser. C'est le capital, les fonds propres que détiennent la banque, c'est-à-dire l'argent que les actionnaires de la banque ont mis dedans. Et ça baisse pour rééquilibrer la baisse de la colonne de gauche. Sauf qu'à force de baisser, ça peut arriver virtuellement à fonds propres zéro.
D'accord.
Et ça veut dire, sur un plan comptable, que la banque est en faillite.
Elle a fait faillite, ouais.
Donc, voyant ça venir, les clients, se sont affolés en masse, ont retiré leur argent en masse et n'ont fait qu'aggraver la situation. Le problème, c'est que retirer son argent, la banque, elle n'a pas cet argent, puisque cet argent, elle l'a utilisé pour acheter les bons du Trésor.
Ouais.
Donc, pour rendre l'argent que les clients veulent retirer, elle est obligée de vendre ses bons du Trésor et c'est là qu'elle enregistre la baisse de valeur.
Ouais.
Et donc, qu'elle précipite sa faillite. C'était ça, la situation d'affolement généralisé qui s'est passée. Bon, alors, attention, on s'affole pas trop. C'est une banque régionale, donc de taille modeste, qui n'a rien à voir avec les mastodontes du secteur qu'on connaît aux États-Unis ou en Europe. Et Joe Biden a très vite, vu l'affolement sur les marchés financiers, annoncé que les dépôts des clients seraient garantis à hauteur de 250 000 dollars.
D'accord.
Ouais, sauf que pour 93% des clients de la Silicon Valley Bank, les startups, ont plus de 250 000 dollars dans leur compte.
Ah, donc ça perte.
Et oui, donc continue, enfin l'affolement continue. Résultat, ben, ce week-end et lundi, Joe Biden a annoncé que non, finalement, les comptes des clients seraient garantis sans limite de montant.
D'accord.
Voilà, faut vraiment éteindre l'incendie en quelque sorte.
Donc l'État
va assurer derrière que ça ne s'écroule pas et que les clients ne soient pas lésés.
D'accord.
D'accord. Alors peut-être les actionnaires l'auront dans l'os, hein, mais en tout cas les clients, les startups ne seront pas lésés. Ouais. Donc la propagation à l'économie réelle, elle se passerait par les clients, par les faillites des clients. Quelques remarques sur cette affaire. En fait, on a donc compris que la clé dans cette affaire, c'est le montant des fonds propres de la Silicon Valley Bank. Ils ne sont pas assez importants. Ce qui est un peu étonnant, parce qu'un des principaux enseignements du crack de 2008, c'était déjà le constat que les fonds propres des banques n'étaient pas suffisants. Mmh. Et une loi était passée en 2010, le Dodd-Frank Act, pour obliger les banques à augmenter leurs fonds propres. Mais devine quoi ? Quand l'ami Trump est arrivé au pouvoir en 2016, ouais, sous la pression amicale des lobbies bancaires, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait passer une loi pour alléger ses contraintes, notamment pour les banques moyennes. Non, vous n'aurez pas besoin d'augmenter vos fonds propres. Il est gentil, hein, Trump.
Ouais, sympa.
Alors, un truc étonnant à remarquer, c'est que dans les comités de lobby qui ont fait pression pour faire passer cette loi, il y avait qui ? Oh, il y avait le patron de la Silicon Valley Bank, Howard Baker, qui se retrouve comme un con avec une boîte en faillite aujourd'hui. Et dans l'équipe d'experts qui a préparé cette loi de dérégulation de Trump, il y avait qui ? Il y avait, oh, Jérôme Powell, le patron de la Fed, la Banque Centrale Américaine, qui est à l'origine de la remontée des taux directeurs qui a provoqué la situation. Tu vois, le monde est petit, hein, quand même, le monde de la finance. En tout cas, début de contagion, baisse des cours des banques, bon, ça y est, c'est réglé avec les décisions de Biden, et un moindre niveau en Europe. En Europe, ça va, on était quand même assez loin, pas trop de soucis, jusqu'à une deuxième aventure, une deuxième mésaventure, une autre banque dont on entend parler, la banque suisse qui s'appelle le Crédit Suisse.
Ouais.
Deuxième épisode des mésaventures des banques, rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais bon, quand même, deux épines dans le pied en même temps, ça fait mal, d'où l'affolement du monde bancaire. Le problème du Crédit Suisse, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'ils perdent de l'argent. En février, ils ont annoncé une perte sur 2022 de 7,3 milliards de francs suisses, donc déficit, hein, c'est lourd.
Ouais, c'est beaucoup, ça, de
Ouais, c'est beaucoup. Affolement généralisé, les clients retirent en masse leur argent comme d'habitude. Ouais. Ils avaient même commencé au dernier trimestre 2022, ils avaient retiré 100 milliards sur les comptes du Crédit Suisse parce que la confiance n'était pas là. Le cours boursier du Crédit Suisse perd 24% le 15 mars, quand même pas mal comme chute. Il y a des systèmes de protection basés sur des CDS, je ne détaille pas, mais tout ça c'est au bord de la rupture. On demande aux actionnaires, vous ne voulez pas augmenter vos fonds propres là pour sauvegarder la banque ? Les actionnaires disent, bah, même pas en rêve mon gars, hein, ça sent pas bon tout ça. Donc, affolement des marchés financiers, l'action BNP Paribas perd 9,7%, l'action Société Générale perd 11,8%, l'action du Crédit Agricole perd 5,8%, la Deutsche Bank chute de 9,3%, la Banque Italienne UniCredit de 9%, la Banque Santander Espagnole de 6,2%. Bref, affolement généralisé des marchés financiers du côté des cotations des banques.
Ouais.
Bon, t'inquiète pas, hein, je vais t'expliquer, le gouvernement suisse est intervenu. Mais quand même, avant, pourquoi le Crédit Suisse est dans cette situation ?
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh ben ouais. Alors là, je vais utiliser un terme technique pour vous faire comprendre, je m'excuse, j'utilise pas trop souvent, mais quand même, parfois il faut. Parce que c'est une banque de merde.
Yes.
Voilà, tout simplement, une grosse banque de merde. Une banque de merde systémique, c'est-à-dire dont la chute peut faire tanguer les marchés financiers, ou le système bancaire pour commencer, d'ailleurs on le voyait bien. D'accord ? Alors pour vous expliquer pourquoi c'est une banque de merde...
Il va falloir expliquer, oui,
voilà.
On ne peut pas dire ça gratuitement.
Oh, je vais citer Martine Orange de Mediapart dans un article très détaillé que je mettrai avec d'autres articles dans les liens, dans le podcast. J'ouvre les guillemets. « Depuis plusieurs années, le Crédit Suisse enchaîne les scandales, les fautes et les errements. Évasion fiscale à grande échelle, manipulation sur certains marchés, investissement dans des fonds douteux, relations avec des clients peu recommandables, bonus délirants pour ses dirigeants. » La banque s'est retrouvée accusée à de nombreuses reprises pour ses pratiques sulfureuses, et a été condamné par la justice et les autorités de régulation, fermant les guillemets, c'est une banque de merde.
Oui.
Voilà. Pas d'inquiétude, les autorités suisses sont intervenues, elles savaient que si elles ne faisaient rien, c'est toute la crédibilité du marché bancaire suisse qui s'écroulait, et là ça craignait un petit peu. Elles ont prêté pas moins de 50 milliards de francs suisses à la banque, au Crédit Suisse, ça c'est la banque centrale suisse qui a prêté cet argent, et ce lundi, la première banque suisse, l'UBS, a annoncé qu'elle rachetait le Crédit Suisse pour la modique somme de 3 milliards de francs suisses, c'est-à-dire moins de la moitié de sa valeur réelle, avec des garanties sur les pertes apportées par l'État suisse. Bref, ça roule, le système est sauvé, tout va bien pour l'instant.
Ouais, interventionnisme de l'État quand même.
Ah bah comme d'habitude, hein, privatisation des profits, socialisation des pertes.
Ouais, bon.
C'est le capitalisme moderne.
Ouais, mais c'est le contraire du capitalisme, il me semblait, à la base. L'État, il est censé laisser faire la main magique.
Ouais, jusqu'à ce que ça aille mal. Et là, on n'assume pas les conséquences et donc on socialise les pertes. On fait intervenir papa, maman, l'État pour secourir les malandrins qui ont mal agi.
Bon, très bien. Merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.